Merci beaucoup, M. Fassin, pour votre présentation très intéressante. On va sûrement répéter quelque chose que vous avez déjà dites, puisqu'on n'avait pas la présentation en préparant la discussion. En essayant d'être, d'être synthétique.
Ça peut être plus clair que moi.
Peut-être. Donc, pour débuter, je souhaiterais aborder le choix des objets, de votre approche en termes d'économie morale, et par la suite, des questions d'ordre plutôt méthodologique, notamment sur l'ethnographie et d'autres questions. Donc, tel que vous venez de le présenter, vous appliquez le concept d'économie morale à des objets ayant trait à la question morale, et non pas à des groupes sociaux, comme l'avaient fait notamment Thompson ou Scott, ni à des domaines d'activité spécifiques tels que l'a développé Daspen à propos de la science. Donc, cela permet d'éviter un risque de réification, comme vous l'avez mentionné, qui menaçait ces définitions, qui associaient le concept d'économie morale à des cultures ou des sous-cultures. Donc, comme vous venez de le dire, on peut parler par exemple d'économie morale de l'immigration, de l'asile, de la peine ou de l'emploi. Alors, à partir d'une ethnographie et d'une généalogie, puisque votre méthode se base sur ces deux approches, vous ancrez vos enquêtes dans des réalités locales, très locales même, tout en considérant leur paysage global. Ainsi, vous prêtez conjointement attention au niveau micro-sociologique des acteurs et à leur subjectivité morale, et au niveau macro-sociologique des économies morales. Donc, dans les dernières années, vous avez développé une anthropologie morale de l'État, avec l'équipe du programme de l'ERC, et qui se définit contre les lectures verticales de l'action étatique en revendiquant une approche transversale, c'est-à-dire qui tenait à la fois compte des politiques au niveau national et international, donc ce qui va déterminer plutôt l'économie morale, et des pratiques quotidiennes de ses agents. Les institutions sont le lieu de transactions morales, donc qui articulent une économie morale macro-sociologique et des subjectivités morales individuelles. Donc, vous avez privilégié dans vos enquêtes toujours des cadres institutionnels, donc essentiellement des institutions d'État, les administrations de l'asile, la police, la justice, les services sociaux parmi d'autres. Vous avez par le passé étudié d'autres types d'institutions comme les organisations humanitaires, notamment dans la raison humanitaire. D'une certaine façon, on peut dire que toutes mettent en œuvre des formes de politique publique ou de gouvernementalité. Et donc la première question serait de savoir dans quelle mesure on pourrait étendre le concept d'économie morale à des formes sociales qui ne soient pas des institutions. Plus largement, on pourrait se demander comment s'opèrent les transactions morales, donc entre les économies morales et les subjectivités morales individuelles, dans d'autres types de formations moins structurées que des institutions. Une dernière question dans le même sens, on peut se demander quels objets relèvent d'une économie morale et par conséquent jusqu'à quel point le concept peut-il être opératoire. Certains de vos collègues, notamment doctorants ou post-doctorants, je cite juste deux exemples, ont pu travailler sur l'économie morale de la finance ou l'économie morale du tourisme sexuel. Donc, est-ce que vous pourriez développer un petit peu les objets différents?
Donc, pour continuer dans la même lignée, vous articulez chacune de vos enquêtes à une généalogie des problèmes moraux étudiés en l'espèce. À la différence de votre pratique ethnographique, qui est au plus près du terrain, les assertions des généalogies, au niveau de l'espace public sont plus difficiles à étayer empiriquement. Donc, ma question est surtout une question de méthode. Donc, je veux savoir sur quelle méthode vous vous basez pour établir ces généalogies, quel type de sources vous mobilisez, et si vous avez développé une méthodologie spécifique qui s'adapterait à chaque thème étudié. Et afin de poursuivre dans cette lignée, vous soulignez également l'instabilité des configurations morales qui sont traversées par des dissonances et des sentiments contraires. En cela, vous relevez la présence d'économies morales concomitantes et d'attentes normatives croisées. Vous rappelez également dans vos travaux que l'expression du dissentiment et des faits sociaux s'exprime davantage par des actions et des énonciations qui ne se donnent pas nécessairement pour moraux, ce que vous avez notamment mentionné dans votre présentation. Donc, à cet égard, comment identifiez-vous ce qui relève de la dimension morale d'attente? Autrement dit, comment construisez-vous des catégories relatives aux énoncés moraux? Et est-il possible d'opérer, comment est-il possible de les rendre opératoires dans le cadre d'une démarche comparative? Donc, si on parle notamment, pour reprendre la définition de la circulation des affects, je demandais, si on prend peut-être plus une question d'actualité, le terme de dignité, par exemple, a été maintes fois mobilisé lors des soulèvements arabes, sans faire l'objet d'une étude approfondie sur ce que représentait ce terme. Donc, la question, c'est comment, dans ce contexte, dans le contexte d'une démarche comparative, peut-on employer des catégories qui relaient une dimension normative sans les vider de leur substance empirique ni les réifier. Également, l'attention que vous portez à la formulation des faits moraux s'avère particulièrement féconde lorsqu'il s'agit d'appréhender le politique, notamment à l'extérieur des lieux et des expressions institutionnalisées. Donc, dans certains de vos travaux, vous traitez des rapports entre l'économie morale et la protestation. Et donc, vous montrez que ce concept s'avère heuristique pour comprendre les protestations populaires, notamment de type émeutière, qui revêtent un caractère moral. Donc, au-delà de l'événement protestataire, où s'élabore progressivement un sens, vous mentionnez que ce sens s'inscrit dans des expériences ordinaires d'oppression. Donc, vous invitez, ce faisant, à s'intéresser aux expériences quotidiennes qui sous-tendent les dimensions morales de la contestation. Dans cette perspective, comment intégrez-vous ce temps de l'entre-protestation à vos enquêtes auprès des agents institutionnels et sont toutefois subsumés l'ordinaire aux politiques? Comment est-ce que ces représentations quotidiennes de l'unité dialoguent-elles éventuellement avec les pratiques des agents institutionnels? Et donc, par exemple, pourriez-vous préciser la manière dont vos études sur les corps policiers se couplent avec des expériences concrètes de domination et les représentations de la justice et qui s'expriment par et au-delà des mouvements protestataires?
Pour continuer la discussion, on aimerait aborder une question que vous avez beaucoup traitée, qui est celle de la morale de l'anthropologie, de l'engagement de l'anthropologue, et d'autant plus que vous travaillez sur des questions morales. Donc, je vais revenir dans un premier temps sur le livre « La raison humanitaire » que vous avez publié en 2010. Donc, vous avez travaillé sur des sujets qui sont très chargés d'affect, qui impliquent des personnes faisant l'expérience de souffrance multiple, et les institutions qui les prennent en charge. Donc, dans cet ouvrage, vous revenez sur plusieurs années d'enquête sur des terrains français extra-européens, notamment en Afrique du Sud, afin de saisir la morale humanitaire au moment où elle s'inscrit dans la politique, ce que vous nommez notamment le gouvernement humanitaire. Donc vous vous questionnez par ailleurs sur les conditions de possibilité d'une anthropologie de l'humanitaire, que vous décrivez comme un domaine saturé de jugements positifs. Et donc vous revendiquez une critique qui échappe au double écueil de la dénonciation et de l'apologie. Et il s'agirait de remettre en cause les évidences morales qui s'attachent à un objet a priori intouchable. L'anthropologie politique et morale que vous menez vise dès lors à questionner des valeurs et des affects que nous avons tendance à naturaliser. Donc pour cela, vous mettez au jour les contradictions et les tensions, vous l'avez mentionné pour la police par exemple tout à l'heure, qui traversent les discours, ici les discours humanitaristes, et en même temps qui tiraient les acteurs humanitaires. Donc par exemple les tensions entre mobilisation compassionnelle et logique répressive, ou encore entre les figures de victimes et celles de suspects. Plus récemment, vous avez publié deux ouvrages suite à des enquêtes ethnographiques de longue durée. Donc le premier sur la police, auprès d'une brigade de la BAC, et le second sur la prison, dans lequel vous développez aussi une analyse de la question morale. Et voilà. Donc si le domaine humanitaire était a priori intouchable, car saturé d'affect, enfin de jugement positif. A l'inverse, le système répressif, la police, la prison, était a priori propice à la dénonciation et à la critique. Donc, à quels enjeux moraux se sont présentés à vous dans ces études, entre sympathie plutôt et antipathie, donc dans ces deux études, par exemple sur l'humanitaire et la police?
Cela m'amène à aborder la question de l'engagement ethnographique et de la place du chercheur dans l'espace public. Donc, lors de vos enquêtes sur le gouvernement humanitaire, vous bénéficiez d'une position d'observateur privilégié en tant que médecin et acteur engagé dans ce domaine, notamment comme vice-président de Médecins sans frontières. Donc cela vous a permis d'observer au plus près l'économie morale de l'humanitaire et les pratiques des acteurs qui y sont engagés. Vous défendez par ailleurs l'idée d'une ethnographie publique impliquant l'anthropologue comme un agent politique et moral qui ne soit ni pur savant ni pur témoin. Et donc en cela, pouvez-vous revenir brièvement sur la définition de cette ethnographie publique sur laquelle est sur sa spécificité lorsque l'on traite de la question morale? Et enfin, une dernière question peut-être pour par la suite ouvrir à la conversation, à la discussion, pardon. Après ces nombreuses études sur la question morale, quelles orientations comptez-vous donner à vos recherches à venir?
Voilà. Non. Ça ressemblait à un exposé de souffrance de thèse. Alors, d'abord, merci beaucoup de cette lecture très 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 précise et très approfondie, et alors non seulement pertinente, mais aussi posant des questions pertinentes. Alors, je vais les prendre peut-être dans l'ordre, parce que vous aviez travaillé vous-même cet ordre, donc j'ai essayé de le faire en essayant de ne pas être trop long. D'abord, la question des économies morales, de leur rapport aux institutions et aux objets. Alors, il se trouve que dans le travail sur que nous avons réunis dans un volume qui s'appelle Juger, réprimer, accompagner, qui rassemble les travaux d'une dizaine de chercheurs qui ont travaillé ensemble, nous nous étions donné au départ une sorte de double objectif dans ce programme européen, un objectif qui était de construire des instruments théoriques, un cadre général d'interprétation, et de dire que ça ne suffisait évidemment pas, et que puisqu'il s'agissait de faire un travail de science sociale, il fallait aussi tester ces instruments. Et du reste, en disant les choses comme ça, c'était un peu triché comme toujours, c'est-à-dire comme si on avait d'abord construit une théorie et qu'ensuite on l'avait validée empiriquement. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, on a fait les deux en même temps. Et la théorie, c'était comme toujours, hein, bien sûr, la théorie s'est élaborée, on a progressivement réussi à donner du sens à un travail ethnographique qui portait sur différentes institutions de justice, sur y compris de l'asile, de la comparution immédiate, etc., de la justice administrative, de la police, de la prison, plusieurs établissements, des services sociaux et des équipes de santé mentale. Donc, assez vaste, et qui était en fait réuni par le fait qu'elle s'adressait aux mêmes populations, c'est-à-dire qu'au fond, on retrouvait un peu les mêmes gens qui circulaient, les mêmes publics qui circulaient entre ces différentes institutions, qui étaient plutôt des gens de conditions modestes, qui étaient souvent de quartiers populaires, qui étaient fréquemment d'origine immigrée, etc. Et donc, c'était comme ça que nous intéressait. Néanmoins, sur d'autres travaux que j'ai faits, ou d'autres font aussi, bien sûr, mais économie morale ne se rattache pas aux institutions. C'est quelque chose. Disons, l'institution nous semblait un endroit, un lieu à la fois physique, mais aussi un lieu théorique, d'articulation de cette dimension macro-sociologique et micro-sociologique, c'est-à-dire de ce qui se passe dans l'espace public quand on parle de l'asile, de l'immigration, ou de la répression, etc., et ce qui se passe au niveau local dans le travail des juges, le travail des policiers, le travail des surveillants, etc. Mais économie morale, il n'y a aucune raison de le rattacher en soi à des institutions. Le seul vrai rattachement de mon point de vue, en tout cas de la façon dont j'essaie de le construire, et avec des imperfections, mais c'est des flous, et puis même des variations aussi dans la manière dont j'ai commencé à y réfléchir il y a une dizaine d'années, et dont aujourd'hui je les pense. Et il ne s'agit pas de stabiliser complètement un concept qui ensuite empêcherait de penser, mais plutôt de voir dans quelle mesure il peut à certains moments nous aider à penser, dans d'autres moments est probablement moins utile. Alors, du coup, ce qui amène à se poser la question, quels objets que vous m'avez posé, et quels objets, je dirais que c'est tous les objets dont on peut supposer qu'ils sont investis d'affect et de valeur. Et j'étais très heureux, d'ailleurs j'ai beaucoup insisté, vous avez mentionné qu'il y avait un chapitre sur la finance, j'ai beaucoup insisté auprès de l'auteur qui à un moment donné était un peu découragé, non pas découragé de son travail, mais découragé d'écrire un chapitre parce qu'il avait d'autres choses à faire. J'ai beaucoup insisté auprès de cet auteur qui était post-doctorant, en lui disant, ton chapitre, votre chapitre, je ne sais pas, votre chapitre est très important. Parce que justement, il va montrer contre ce qu'on pourrait penser si on s'attache uniquement à des domaines comme disons ceux des dominés, enfin, qui touchent les dominés. Là, montrer que l'économie de la finance, les gens qui sont dans la finance, ils ont aussi des valeurs et des affects. Enfin, c'est, on ne va pas dire les capitalistes n'ont pas, comme le disait Thompson, enfin, c'est un peu sa provocation, mais... il y a aussi des valeurs intermédiaires, et ça c'est pour nous très important, dans le tourisme sexuel, le travail de Sébastien Roux, et c'est justement pour montrer quelles sont les valeurs de ceux qui s'opposent au tourisme sexuel, avec des grandes campagnes internationales, etc., enfin, qui nomment d'ailleurs tourisme sexuel, et puis les subjectivités morales, pourrait-on dire, mais aussi les économies morales locales, des jeunes femmes thaïlandaises qui voient peut-être une... Et des hommes qui sont en contact avec elles et qui voient peut-être une possibilité de sortir de la prostitution par... et voilà, qui construisent un autre modèle localement. Et reconnaître justement ces conflictualités là où on a un discours bulldozer sur le tourisme sexuel. Mais donc c'est pas n'importe quels objets, mais c'est des objets qui sont constitués moralement. Ce qui m'amène à la question que vous m'avez posée et qui est très intéressante et très intrigante. Vous avez parlé de catégorie morale latente. Et je dirais que pour moi toute la question, et j'utilise souvent le terme enjeu, et c'était le nom de tous les laboratoires que j'ai dirigés, ils avaient tous le mot enjeu dedans. Pour moi c'est un mot très très important. C'est un mot très important, et en même temps, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur des enjeux. Qu'est-ce qui est en jeu ? C'est ça qui est important, que je trouve important. Qu'est-ce qui est en jeu sur un plan politique, sur un plan moral, sur un plan économique ou autre chose ? Qu'est-ce qui est en jeu ? Et donc, il y a des enjeux qui sont assez faciles à déterminer parce qu'ils sont dans l'espace public. Et ils sont débattus, et on en parle tous les jours. Et puis, il y a des choses dont on ne parle pas. Prenez par exemple les inégalités, admettons, hein. On ne parle pas beaucoup. Donc, comment est-ce qu'on peut traiter, enfin, est-ce qu'il faut abandonner ça en disant, ben, ça n'est pas un enjeu puisqu'on n'en parle pas ? Ou est-ce qu'il faut, et c'est un peu un coup de force, puisque là c'est le chercheur qui décide qu'il y a là quelque chose dont on ne parle pas mais qui est important. Alors, sur quoi il va fonder ça ? Il va fonder ça sur des éléments qui sont théoriques et empiriques, que par exemple, il travaille dans des endroits où il voit que ces inégalités sont majeures et permanentes, mais qu'on n'en parle pas dans l'espace public, donc il y a quand même peut-être là un enjeu moral ou politique latent. Mais c'est une question qui est toujours complexe, même déjà lorsque les choses sont explicites dans l'espace public. Ce qui fait véritablement l'enjeu n'est pas toujours évident, et souvent il y a un déplacement à faire par rapport à la manière dont les choses sont posées dans l'espace public pour arriver à reconstituer quel est le véritable enjeu quand il n'est rarement nommé comme tel. Hein, si on disait moralisation de la vie politique, on ne va peut-être pas aller très très loin d'un point de vue analytique avec cette catégorie-là, mais on doit pouvoir creuser ce qui est en jeu derrière cette... sur la disqualification du politique, par exemple, une disqualification morale, et qui est peut-être plus importante que la question de la moralisation du politique, c'est-à-dire de la manière dont on va le présenter. Donc, dans l'espace public, mais a fortiori, évidemment, pour ce qui est latent, il y a là des choix qui sont à faire, et qu'il faut ensuite justifier, et dont il faut montrer, je dirais, la valeur heuristique, c'est-à-dire si on arrive à montrer que ce sont des catégories ou des enjeux qui nous apportent des éléments de connaissance qu'on n'aurait pas si on n'utilisait pas ces catégories morales, eh bien, je crois qu'on a gagné quelque chose. Si c'est simplement pour appliquer des catégories, que ce soit subjectivité morale, économie morale ou toute autre catégorie, ça n'a, à mon avis, vraiment pas beaucoup d'intérêt. Alors sur les généalogies, vous dites, vous me demandez les méthodes et les sources. D'abord, il y a, de mon point de vue, il y a deux grands types de généalogie. En fait, il y en a plus, mais disons dans les auteurs qui sont généralement cités sur la généalogie, je pense qu'on a parfois tendance à penser que la généalogie foucaldienne n'est pas très différente de la généalogie nietzschéenne, ou en tout cas le sous-entendre. Je crois qu'elles sont très très différentes. La généalogie foucaldienne, elle est très concentrée historiquement sur des périodes qui sont étudiées de façon très approfondie, ce qui n'empêche pas que les historiens les contestent. Mais néanmoins, on voit qu'il y a un travail sur, dans le cas de Foucault, souvent sur le 17e, 18e siècle, enfin 18e plutôt, 18e plutôt, et parfois un petit peu sur le 17e, un peu sur le 19e, enfin, donc des périodes très très précises, ou au contraire dans l'Antiquité gréco-romaine, ou au Moyen-Âge, autour du pouvoir pastoral, etc. Alors que chez Nietzsche, on a une espèce de perspective construite sur une espèce de projection très très large, où on saute les siècles. Donc il y a différentes façons de faire de procéder à la généalogie. Ce qui me semble effectivement général dans ces généalogies, c'est qu'elles partent de problèmes d'aujourd'hui pour essayer de comprendre comment ils en sont venus à être ce qu'ils sont, par opposition au travail de l'historien qui était plutôt de restituer ce qui se passe dans une époque donnée. Du point de vue, le travail le plus, enfin, un tout petit peu plus élaboré que j'ai essayé de faire sur la généalogie, qui du coup est un travail plus nietzschéen que foucaldien. On pourrait dire que dans le livre Juger, réprimer, accompagner, on a suivi depuis à peu près le milieu du 19e siècle, sur un certain nombre d'institutions, que ce soit la police, la justice en flagrant délit, etc., on a essayé de voir comment elle s'était constituée sur une période. Donc on est assez foucaldien dans cette approche-là, parce qu'on suit on s'intéresse à des situations présentes, mais on essaie de voir comment elles se sont constituées, comment les fils qu'on peut tirer. Dans le livre Punir une passion contemporaine, j'ai été beaucoup plus nietzschéen dans la façon dont il aborde, et en utilisant trois types de sources, des sources disons, philologiques, simplement étymologiques, c'est-à-dire suivre des mots, suivre par exemple le développement du mot poena jusqu'à peine, et rétributio jusqu'à rétribution, et donc montrer comment comment ça permettait de comprendre justement ce passage de la réparation, compensation à la souffrance. Un deuxième élément qui est historique, les travaux d'historiens, et un troisième élément sur par exemple le châtiment à Rome, ou des travaux extrêmement intéressants, et puis des travaux ethnologiques, et notamment certains travaux qui sont très intéressants parce qu'ils permettent de voir des gens qui ont étudié les sociétés précoloniales, la colonisation, et donc, non pas postcoloniale, mais dans le moment colonial. Donc j'ai utilisé ça, c'est les généalogies ont souvent un élément, je dirais, un peu de bricolage. J'allais plus vite. On a jusqu'à 16h30 quand même. Ouais.
Il y a un aussi ouvert le débat.
D'accord. Je vais juste peut-être revenir sur le dernier point que vous avez évoqué. Le dernier point que vous avez évoqué, et peut-être après j'en reprendrai aussi dans la discussion publique, sur la question de l'engagement, etc. Comme vous l'avez dit et comme je ne l'avais pas dit moi-même, je pense que en parlant d'anthropologie morale, il y a un élément de réflexivité qui est indispensable, qui est quels sont les présupposés moraux, et en tout cas un travail réflexif sur les fondements moraux à partir desquels on travaille sur ces objets moraux, hein, c'est-à-dire ne pas exclure le sociologue ou l'anthropologue de ces questions morales lui-même. Deuxièmement, Vous l'avez dit, bon, je pense que c'est quelque chose qui s'est pas mal développé ces dernières années, notamment chez beaucoup de doctorants et post-doctorants, les jeunes chercheurs. C'est le fait d'avoir plutôt qu'une, dans certains cas, plutôt qu'une observation participante, une participation observante. C'est une pratique qui est très travaillée avec des associations. Donc vous travaillez pour l'association et puis à un moment donné, de façon plus ou moins explicite, en général c'est très explicite, hein, c'est-à-dire je suis chercheur et je travaille avec vous mais je fais une recherche en même temps. Hein, donc c'est ce que j'ai fait dans le cadre de l'humanitaire, en faisant quand même un petit peu attention, c'est-à-dire que j'ai attendu d'avoir 2 ans ou 3 ans, je crois, après avoir terminé complètement mes activités dans le monde humanitaire pour pouvoir en parler, disons, plus directement. Mais en tout cas, je pense qu'on apprend aussi beaucoup de choses quand on est dans ces positions de participation observante, et notamment, on apprend, quand on est dans une démarche critique, on apprend que... comme le disait un poète, la critique est facile, mais l'art est difficile. Et donc, on apprend que si on était à la place de ces acteurs dont on est en train de critiquer l'action, eh bien, on ne sait pas très bien ce qu'on aurait à proposer de beaucoup mieux, ou on est convaincu qu'on se rend compte qu'on ferait pas des choses si différemment, aussi bien que ça. Et donc, je trouve que ça introduit un élément aussi de réflexivité modeste, de modestie réflexive. Et puis, dernière chose sur l'ethnographie publique, je ne vais pas en dire beaucoup, j'en ai parlé ce matin, mais je peux y revenir tout à l'heure si vous voulez, mais juste une précision, c'est que lorsque je parle d'ethnographie publique, je ne me réfère pas à un programme normatif où je dirais nous devons être publics, comme le fait Michael Borowoy sur la sociologie publique on va me revenir dans un instant sur l'anthropologie publique, directeur des collections de University of California Press, et qui promeut l'idée de rendre public les travaux et de débattre publiquement et d'avoir une manière non académique de travailler. Moi, la position que j'ai par rapport à ce que j'essaie modestement de dire avec ethnographie publique, c'est que nous avons tous, dès lors que nous publions, dès lors que nous avons des interactions avec le public, nous avons tous, nous faisons une ethnographie, mais on pourrait dire à ce moment-là une sociologie publique, nous avons tous ces moments publics. Et donc, la question n'est pas est-ce que c'est bien de les avoir ou est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faut le faire ou pas. Chacun peut avoir son opinion là-dessus, mais il y a cette dimension-là, des fois qu'on le veuille ou non, et que par conséquent, ça doit être un temps de la recherche. Oui. Je disais l'expression de public afterlife of ethnography, la vie après, en quelque sorte, la vie publique après de l'ethnographie, c'est-à-dire que se passe donc d'étudier et y compris d'essayer de faire l'ethnographie de cette publicisation, c'est-à-dire pas simplement de dire on rend public, mais on essaye de faire l'ethnographie et la sociologie de cette publicisation pour en voir les enjeux, les dilemmes, les problèmes, les attentes, les perspectives, etc. Donc c'est plus ouvrir un champ de recherche plutôt que promouvoir normativement une vision publique à laquelle je souscris par ailleurs. Mais disons, c'est pas ça que j'essaye de développer, c'est plutôt une réflexion sur plutôt qu'une promotion de...
Merci.